voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les thérapies alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. Donc, l'émission radio s'appelle La Voix du Kaizen. L'idée, c'est de donner la parole à différents thérapeutes que je rencontre sur mon tour de France pour parler de l'être humain et de la dimension holistique de l'être. Donc, avec moi, Méline, on est rue du Paradis à Paris. Et donc, auditeur, on va prendre le temps de rencontrer Méline. Donc, je vais laisser te présenter et m'expliquer peut-être un peu ton itinéraire et ce qui t'a amené à t'interroger un jour sur l'être humain, sur le corps et sur la santé de l'être.
Bonjour Alexandre. Tout d'abord, j'ai débuté en tant que médecin traditionnel chinois, mais il y a 25 ans. Donc, c'était pas encore l'ouverture n'était pas la même en France. En Allemagne, c'était déjà pas mal ouvert. En Angleterre aussi, il y avait des cliniques déjà de médecine chinoise. Ici, c'est venu très très tard, et encore, il y a toujours pas de clinique, je pense. Mais bon, j'ai poursuivi, j'ai fait ça en France.
Pourquoi la médecine chinoise? Comment est-ce que tu es arrivée à la médecine chinoise?
Je suis venue en France jeune. J'ai fait ma primaire ici et j'ai poursuivi mes études et j'ai fait médecine classique, fac de médecine classique. Et les aléas de la vie m'ont arrêtée dans mes études. Et je suis partie sur toute autre chose, un truc familial, etc. Et quand j'ai pu revenir sur mon chemin, je me voyais plus reprendre des études de médecine classique. C'est comme si je m'étais déviée toute seule pour voir qu'il y avait d'autres formes de thérapie que l'officiel. Je dirais pas la médecine classique, puisque pour moi, la médecine classique, c'est l'Ayurveda, c'est la médecine chinoise, c'est tout ça. Donc, la médecine officielle en France, enfin, dans le monde entier, pratiquement. Je pense qu'aussi, après cette déviation, je me suis mis à me chercher, moi, profondément. J'ai commencé une thérapie. Et en même temps, j'ai cherché mes racines. Donc la médecine traditionnelle chinoise faisait partie de mes intérêts, aussi bien intellectuels qu'émotionnels. Donc j'ai étudié 5 ans en France, et avec des stages en Alsace, beaucoup, et avec des stages une fois par an en Chine. Et à la fin de la dernière année, je pouvais faire un stage de 2-3 mois en Chine avec l'école, etc. Et finalement, j'ai refusé. Je suis partie de mon côté chez un cousin qui, lui, était à l'hôpital des chemins de fer de Canton, de Guangzhou. Et donc, j'ai pu avoir mes entrées, comme je parle chinois, le cantonais exactement. Mandarin aussi, mais un peu moins. Donc, je suis allée faire mon stage toute seule là-bas, j'ai baigné dedans pendant plusieurs mois.
Donc, tu es un peu le pont entre l'Orient et l'Occident.
Tout à fait, c'est ça qui m'intéresse finalement. Ensuite, je suis revenue et j'ai commencé à pratiquer de façon classique. Prise des pouls, la langue, les questions, les yeux, enfin tout. Et acupuncture et phytothérapie. Sauf que la phytothérapie, au moment où je l'ai pratiquée, c'était encore ici très très compliqué. C'était des herbes qu'il fallait acheter, faire des décoctions pendant des heures. Toute la maison sentait les décoctions. Et c'est sûr que quand on est parisien à travailler, je sais pas combien d'heures à rentrer en vitesse pour récupérer ses enfants, faire des décoctions, c'est pas possible, quoi.
Et surtout, une question qui me vient comme ça, donc la médecine traditionnelle, classique, chinoise, ou quelle que soit, la médecine traditionnelle est souvent adaptée à un contexte géographique, un contexte culturel. L'homme naît dans un écosystème, on ne va pas consommer les mêmes plantes en Chine qu'en Amérique du Sud ou qu'en Europe.
Tu as donc... tout à fait raison, parce que le même nom latin, la même plante qu'on a traduit du chinois en latin, n'est pas la même, finalement. Le ginseng qu'on va planter et cultiver en Chine ne donnera pas les mêmes propriétés exactement que le ginseng cultivé ici.
Oui, parce que le sol est différent, la biomasse est différente, la vie dans le sol est différente, donc forcément, elle va impacter la plante et ses racines.
Oui, tout à fait.
Mais alors, comment ça fonctionne quand on est donc dans cette biculture, dans cette double tradition, dans cette double culture, comment est-ce qu'on va adapter quelque chose qui vient de l'Orient pour l'Occident ?
Eh bien, à l'époque, je n'arrivais pas, justement, à adapter. Pour les Chinois, j'étais occidentale. Pour les Occidentaux, j'étais chinoise. Et toujours maintenant, mais moi, intérieurement, je sais qui je suis, donc c'est beaucoup plus facile. Et là encore... Une fois que j'ai fait tout ce qu'il fallait, ma route a été déviée, plus par l'intermédiaire d'un ami qui m'a fait connaître la kinésiologie, d'un ami homéopathe. Et je lui en parlais beaucoup et je lui disais, mais je n'arrive pas à relier la médecine traditionnelle chinoise avec le symbolisme, la psychanalyse, la psychologie occidentale. Tous les symboles, etc. Je sais qu'il y a un lien, mais je n'arrive pas à mettre ça ensemble. Et il m'a dit, essaye la kinésiologie. Et j'ai fait des études de kinésio, les trois branches, le Touchful Health, qui pour moi, voilà, me permettait de faire le pont entre la médecine chinoise et l'anatomie, par exemple. Le Brain Gym, qui est plus basé sur des exercices activant des zones différentes du cerveau. Alors ici, on utilise beaucoup le Brain Gym pour les enfants, parce que c'est une aide à l'apprentissage, ou une aide pour des dyslexiques. Mais je me suis aperçue qu'en fait, la vie est un apprentissage. On est toujours en train d'apprendre quelque chose, d'essayer de s'adapter, de changer de modèle d'éducation en soi-même.
Avant d'aller plus loin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette quête de sens. J'ai vraiment l'impression que l'être humain prend conscience qu'on est bien plus qu'un corps physique et il y a cette démarche plus globale où on va chercher des moyens différents de retrouver une sorte d'équilibre ou d'alignement intérieur, peut-être plus aujourd'hui qu'à 10, 15 ou 20 ans, où on était peut-être moins dans ces préoccupations de l'être et du développement personnel et du bien-être. Avant de parler de cet aspect-là, j'aimerais juste qu'on revienne sur la médecine chinoise. Est-ce que tu peux définir rapidement ce que c'est ?
La médecine chinoise est une médecine, en fait, si on peut dire ça, c'est une médecine préventive. C'est-à-dire qu'un médecin traditionnel se devait de garder toute la famille en bonne santé. Et si un des membres tombait malade, c'est qu'il avait mal fait son travail, déjà. Donc pour le garder en bonne santé... il tenait compte de tout, des facteurs extérieurs, ce qu'on appelle les attaques externes, le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, etc. La nourriture, l'alimentation était importante. Les relations avec les autres étaient importantes. Parce que si ça se passait mal, le moral baissait. Donc la défense immunitaire était plus faible. Puisque quand le moral baisse, l'énergie baisse et notre capacité à nous adapter et à se défendre des influences extérieures baisse aussi.
Mais donc on va voir un médecin chinois à titre préventif, pas pour se soigner de quelque chose, mais pour se préserver de la maladie.
Non, les deux sont efficaces. Mais pour les très grands médecins chinois, la prévention... je dirais qu'il y a une échelle de valeur entre les médecins qui pratiquent la prévention et qui arrivent, et ceux qui font des massages, acupuncture, etc.,
C'est très intéressant parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a ce mot, tu l'as utilisé plusieurs fois, l'énergie, le chi. Il y a cette notion de l'énergie qu'on ne retrouve pas forcément dans l'allopathique en France.
Ah, pas du tout, oui, on ne le retrouve pas. En fait, la médecine chinoise est basée sur plusieurs fondamentaux, le chi, l'énergie, le yin-yang, il faut un équilibre du yin et du yang, et les liquides. Les liquides, c'est le sang, la lymphe, les larmes, tous les liquides. La transpiration et les cinq éléments, évidemment. Donc ça, c'est... Et ensuite, ben, on fait un diagnostic avec la personne, elle est plutôt yin ou yang, plutôt, hein. On n'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Plutôt froid ou chaud, plutôt les symptômes sont plutôt internes ou externes. Voilà, et puis à partir de là, on essaie de rééquilibrer. Quand il y a un blocage, on débloque. Quand ça ne circule pas bien, on tonifie. Le chi permet au sang, on va dire le sang, de circuler. En fait, en piquant l'aiguille sur un corps vivant, on stimule l'aiguille, on bouge l'aiguille jusqu'à ce qu'on en sente que le chi, on a attrapé le chi. C'est-à-dire que hop, tout d'un coup, il y a une aimantation et l'aiguille ne bouge plus. Et souvent, la personne sent « waouh !» C'est comme s'il avait une crampe. Et là, ce qu'on appelle le chi est attrapé. Donc voilà, on est bien dans le courant. Dans un morceau de viande, vous avez beau piquer, tourner, tirer, pousser. Si vous n'attrapez rien du tout, il n'y a plus de chi.
Mayline, c'est cette dimension, tu disais avant, multipotentialité, c'était ça le terme ?
Oui.
Multipotentialité.
Oui, parce qu'à travers mon parcours, donc je fais médecine chinoise, psychanalyse, thérapie psychocorporelle, kinésiologie. Grâce à cette richesse, je me suis dit, voilà, l'être humain, je peux enfin l'appréhender, l'aider, parce qu'il n'est pas un bloc, c'est pas un bloc de ci ou de ça. Par moment, les personnes que je suis, je peux les suivre quelquefois. Un jour, ils ont besoin d'acupuncture. Un autre jour, ils ont besoin de parler. Un autre jour, ils ont besoin de travailler des symboles. Un autre jour, ils ont besoin de faire des exercices. Et c'est pas toutes les fois les mêmes points d'acupuncture ou la même technique, selon ce qu'on a besoin. Et grâce à la kinésiologie, je vais rapidement au cœur du sujet. Je vais, qu'as-tu besoin aujourd'hui? Et voilà, la personne vient avec un objectif, souvent, en disant, voilà, j'ai envie de ça, j'y arrive pas, ou bien, j'ai mal au genou, on va m'opérer, ça fait 3 fois qu'on m'opère, ça s'est déjà arrivé. Et là, voilà, j'y crois plus. Donc, l'objectif, c'est d'aller mieux, de toute façon. Y a des gens qui vont très bien, qui viennent me voir, mais pour aller encore mieux. Et une fois que l'objectif est fixé, avec la kinésiologie, je teste pour voir comment on y arrive, rapidement, efficacement. Et à partir de là, ça peut partir, je te dis, dans la médecine chinoise, comme dans des massages, comme dans des symboles, des couleurs, des sons. J'ai mon sac de Mary Poppins et je pioche dedans. Ça, c'est la multipotentialité.
La multipotentialité. Mayline, tu m'as parlé de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que pour toi un être humain? Comment est-ce que tu le perçois? Comment le définir? Ou comment est-ce que toi, tu définis l'être humain?
Simple et compliqué à la fois. Pour moi, l'être humain, il est comme une plante est, comme un animal est, à la même valeur. Certains êtres humains ont moins de conscience que certains animaux. Comment définir? Il a 1000 facettes. C'est un diamant qu'il faut tailler pour montrer la lumière qui sort du diamant, qui ne reflète pas seulement le diamant. L'être humain ne reflète pas seulement la lumière, divine ou pas, peu importe qu'on soit croyant ou pas. Il est lui-même lumière. Mais comme une gangue de minéraux, tant qu'on l'a pas taillé, ça sort, on voit juste une vulgaire, une pierre vulgaire, une vulgaire pierre. Et souvent, c'est par des épreuves que, paf, un côté est cassé, un autre côté est cassé. Puis on commence à voir et dire, ah, mais c'est beau à l'intérieur. Et au fur et à mesure, des épreuves qu'on vit, qu'on se crée, ou même juste des niveaux qu'on passe. On se rend compte que on est là pour émaner la lumière, tout comme la matière.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
J'aime bien le mot conscience, mais quand j'observe ce qui se passe autour de moi, quand je me promène dans les rues parisiennes ou les rues d'une manière générale, tout le monde s'affaire, tout le monde court pour remplir sa vie. Et il y avait cette notion de troquer sa vie contre un salaire.
C'est vrai. Et c'est cette polarité qu'il faut essayer d'unifier, pas de dépasser. Parce que, dépasser ou unifier, peu importe. On a choisi d'être dans une... Enfin, moi, j'ai choisi d'être à Paris, dans une ville, où on s'affaire, il faut payer le loyer, en effet, il y a des choses à nourrir ses enfants, ou ses animaux, ou les deux.
Et c'est compliqué d'être sur un chemin de la conscience quand notre esprit est toute la journée occupé à solutionner des problématiques qu'on va se créer.
Non. Au départ, c'est difficile, mais quand on commence à prendre le chemin, on s'aperçoit que, au contraire, plus on est dans la conscience, plus ça nous aide dans le quotidien. Et sinon, c'est une excuse de dire, je suis trop occupée, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. La conscience, c'est pas se mettre seulement en méditation, ou faire du yoga, ou prier, ou méditer, etc. La conscience, elle est tous les jours. Je vais prendre mon pain et... je me dis, waouh, ce pain, je vais dans cette boulangerie parce que le pain est vraiment bon. Il est bon, il me nourrit, les gens sont sympathiques, ils aiment leur travail. Voilà. C'est pas seulement méditer, c'est avoir du cœur. Avoir du cœur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on reçoit. C'est là, ça, la conscience, pour moi.
J'en reviens à notre sujet sur la multipotentialité et la kinésiologie. Donc, on a prononcer ce mot plusieurs fois depuis le début de notre entretien. Qu'est-ce que c'est que la kinésiologie? Comment ça fonctionne? Et à qui est-ce que ça va s'adresser?
Donc, j'avais commencé par dire qu'il y a trois grands piliers, trois grands pieds au niveau de la kinésiologie, un trépied, l'éducinésiologie qui s'adresse beaucoup aux enfants, mais pour moi c'est aussi aux adultes. Ce sont des exercices qui permettent de rééquilibrer les cerveaux et activer certaines zones qui ne travaillent pas. Le touch for health, la santé par le toucher, qui est basée sur les méridiens, médecine chinoise et les muscles. Et le 3-in-1 concept, concept 3-in-1, qui lui est plus émotionnel, qui travaille plus le psychisme. Mais moi, j'ai abordé la kinésiologie déjà en ayant un parcours avec la médecine chinoise, avec... la thérapie psychocorporelle, la psychanalyse, tout ça. Et c'est devenu un outil très intéressant, mais ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire que comme ça part dans beaucoup, beaucoup de domaines et que ça a beaucoup d'effets, de résultats, ça peut être pris comme un truc magique. Selon les personnes qui vont l'utiliser, ils peuvent jouer au magicien.
Donne-moi un exemple concret, je visualise pas. J'aimerais que l'auditeur puisse créer la dimension visuelle d'une séance de kinésio. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi magique?
Donc justement, comme je disais, pour aller plus vite au cœur du sujet, je teste le muscle d'une personne. C'est des micro-touchés et je ressens la réponse.
Tu dis tu reçois la réponse, donc s'il y a une réponse, il y a une question.
Oui, à chaque fois on me pose une question. À chaque fois on me pose une question, par exemple... je voudrais passer réussir mon bac, par exemple. Je veux réussir mon bac. On va évidemment, il y a de la confiance là-dedans. Imaginez que c'est quelqu'un qui est assez bon en tout, mais qui manque de confiance. Donc l'objectif, c'est je réussis mon bac avec mention. Allons-y. Et je vais, une fois que l'objectif est établi, je vais demander. Est-ce qu'il y a une branche parmi les trois que j'ai dit, Touch for Health, 3-in-1 et du kinésiologie, qu'il faut travailler? Quel méridien? On teste. Quel point travailler? On teste. Et en kinésio, on ne fait pas d'acupuncture, donc on fait des digitopunctures ou acupressures. C'est exactement la même chose. On appuie sur des points, on les stimule, on disperse, etc. Ça, c'est la kinésiologie basique pure en Touch for Health. Et après, on revérifie les muscles qui étaient faibles pour voir s'ils tiennent. Et en général, c'est bon, c'est balayé. La personne repart avec les circuits clairs.
C'est ça qui est difficile à comprendre pour un esprit des fois un peu cartésien. Et c'est là où tu parlais de magie. Parce que finalement, quand on va voir un kinésio, on va pas prendre un médicament. Enfin, c'est complètement intérieur, mais c'est invisible.
C'est visible dans le sens où, en général, on teste avant, on fait sentir à la personne. On teste après, on refait sentir à la personne. Et on voit bien que les muscles tiennent. Il n'y a plus de stress. Quand on reçoit une émotion forte, on a tendance à vouloir s'asseoir. Mais on n'a plus de jambes, comme on dit. Donc le muscle, il perd son énergie. À partir de ce stress, on va tester, voir où est-ce qu'il y a eu un stress qui a créé un manque de confiance dans les examens, par exemple. Et la kinésio permet aussi de faire une récession d'âge, ce qu'on appelle une récession d'âge. On teste pour voir à quel âge ou à quels âges, parce que parfois il peut y avoir plusieurs âges, il y a eu un stress émotionnel fort qui a fait on reste bloqué sur un échec.
Mais donc la kinésio, c'est plus sur le côté émotionnel et psychologique.
La branche 3-in-1, c'est plus sur le côté émotionnel. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de faire des ponts. C'est-à-dire que on va chercher l'émotion, mais on le corrige de manière physique. Soit par des exercices, soit par des points spécifiques à masser, etc.
Est-ce que tu... Parle-moi de cette convergence qu'il peut y avoir entre l'allopathique, donc la médecine qu'on apprend officielle, qu'on apprend à l'école, à la fac de médecine, et tout ce qui est alternative, toutes ces thérapies alternatives qu'on voit. Est-ce que tu observes une convergence et comment est-ce qu'elles peuvent être complémentaires?
Alors, quand je suis allée faire mon stage de médecine chinoise en Chine, je suis tombée sur une femme super consciente, super qui avait le cœur grand ouvert, et qui, elle, venait de la médecine moderne. Là-bas, on appelait ça médecine moderne. Et donc, elle prenait son stéthoscope, elle écoutait. Comme c'était un hôpital d'État, chemin de fer, elle avait 5 minutes par patient. Il fallait hyper faire vite. Et encore, 5 minutes, c'est parce que j'étais là. On lui avait donné l'autorisation de prolonger sa consultation. Et là-dessus, il fallait donc qu'elle prenne le pouls et tout de suite qu'elle donne une ordonnance. Et j'ai beaucoup discuté avec elle parce que quand je suis allée là-bas, j'étais assez obtuse. J'avais complètement fermé la porte à la médecine occidentale. Et pour moi, il n'y avait que la médecine traditionnelle chinoise qui comptait, avec le qigong, les exercices, tout, tout, tout. Et grâce à cette femme, elle m'a appris plein de choses intéressantes. Mon esprit s'est ouvert et je pense que c'est complémentaire, la médecine allopathique et, on va dire, chinoise. Je pense que heureusement qu'il y a la médecine allopathique. Heureusement qu'il y a la chirurgie. Heureusement qu'il y a certains médicaments. Je ne sais pas pour tout. Le problème, ce n'est pas la médecine. Je pense que le problème, c'est les laboratoires. Voilà, ça, c'est mon point de vue, qui font que ça influe sur la médecine allopathique. Et ils font croire même aux médecins. Les médecins eux-mêmes le croient. Hein. La plupart, en tout cas, sont très honnêtes dans leur démarche et ils croient vraiment que le placebo ça sert à rien, que ça. Mais bon, si on reste encore une fois sur l'ouverture de cœur des uns et des autres, je pense que c'est vraiment très complémentaire. Voilà. Ça a une efficacité plus rapide en médecine allopathique et parfois il en faut pour aider le patient à tenir avant de ensuite passer sur la médecine traditionnelle, etc. Ou inversement, quand la médecine traditionnelle chinoise ne peut pas faire plus parce qu'il faut plus de temps ou quoi, et ben on passe à l'allopathie.
Merci à toi.
Merci.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.